Dès mardi prochain, donc du 26 au 28 mars, il y a le Centre des congrès de Québec qui va accueillir la 42e édition du colloque annuel de la COPS, le grand rendez-vous des gens qui s'intéressent au contenu et aux outils technologiques dans le secteur de l'éducation. Au programme, on parle de 300 ateliers, des conférences, des panels et même deux salons de l'innovation. Et cette année, vous ne serez pas vraiment surpris si je vous dis que le thème, c'est innover, partager et collaborer ensemble à l'ère de l'IA. Alors évidemment, avec un thème comme celui-là, l'intelligence artificielle vient prendre une bonne partie des discussions. Pour nous parler de cette rencontre et de l'IA justement dans l'éducation, on va aller rejoindre immédiatement le président de l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales, la COPS. Bonjour Stéphane Lavoie.
Bonjour Bruno.
On est à quelques jours du début du colloque annuel, c'est la 42e édition. Et cette année, évidemment, comme à l'habitude, vous parlez beaucoup de technologie, mais cette année, on sent que l'IA a le vent dans les voiles dans votre édition.
C'est exact. Il y a beaucoup d'engouement depuis novembre 2023, là, 2022
en fait.
Avec l'arrivée de ChatGPT, ça l'a vraiment chamboulé beaucoup de choses au niveau de l'éducation, puis les gens en demandent, ce qui fait en sorte qu'on a quand même 60 ateliers sur les quelques 300 de notre programme du 42e colloque qui traite de l'intelligence artificielle.
L'an dernier, vous aviez déjà touché le sujet, sauf que là, vous avez une bonne année et demie derrière le collet, les pédagogues aussi, et donc ils ont commencé à pouvoir vraiment installer leur réflexion puis en même temps tester entre-temps. Donc, c'est encore plus intéressant là, pour les gens qui vont être présents pour aller les écouter.
Oui, tout à fait. C'est certain qu'il y a eu le mot d'ordre du ministère d'éviter de faire des expérimentations avec les élèves. On sait que de toute façon, les élèves ont ça dans leurs mains, alors ils peuvent l'utiliser. Il s'agit juste d'avoir la bonne réflexion éthique avec eux sur le fait de lever la main et dire « oui, je l'ai utilisé pour m'aider, pour m'inspirer, pour faire ce travail-ci », parce qu'il y a beaucoup de craintes de la part d'enseignants sur comment je vais faire pour détecter s'il a utilisé ou pas l'IA. Je pense que c'est de prendre le problème du mauvais côté, là.
Vous avez été vraiment aux premières loges pour voir l'évolution de l'utilisation des technologies dans le monde de l'enseignement, parce que c'est comme le cœur de votre travail. Quand vous regardez, on va partir aussi loin que l'informatisation, là, quand les ordinateurs sont rentrés dans les salles de classe, à travers ça, il y a eu évidemment l'évolution de l'informatique lui-même, mais aussi des services auxquels les enseignants puis les gens qui travaillent à encadrer la pédagogie ont eu accès. Avez-vous l'impression que ce qu'on est en train de vivre avec l'intelligence artificielle, c'est comparable à ce qu'il y a eu quand l'Internet est arrivé ou même quand l'ordinateur est rentré dans les classes, ou c'est autre chose, on est ailleurs?
Bonne question. D'emblée, l'arrivée d'Internet a chamboulé beaucoup. La démocratisation de la connaissance, ça a changé un peu le rôle de l'enseignant, mais c'est pas aussi rapide. L'accélération est beaucoup plus grande avec l'IA que ça a pu l'être à l'arrivée de l'Internet ou à l'arrivée de la mobilité quand les appareils mobiles sont entrés, que tous les élèves avaient leur propre ordinateur dans leur poche. Ça aussi, ça a évolué beaucoup la mentalité.
Et quand vous parlez aux enseignants et à ceux, je pense aux pédagogues, là, ceux qui encadrent ça, qui sont pas dans les classes mais qui aident les professeurs à travailler sur leur démarche, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils se positionnent où par rapport à l'intelligence artificielle?
De façon générale, mes collègues du récit, nous, on est à peu près 300 conseillers pédagogiques qui œuvront pour les technologies en classe. Notre position, elle a toujours été très claire, c'est que les technologies sont utiles, c'est un outil de plus dans l'arsenal de l'enseignant. Et l'intelligence artificielle n'est pas différente. C'est un outil supplémentaire qu'on a pour aider nos élèves à atteindre leur objectif, à devenir plus compétents et ainsi de suite.
Mais selon vous, qu'est-ce qui va faire que les enseignants vont se sentir, un peu comme aujourd'hui par rapport à l'Internet et à d'autres technologies, qu'est-ce qui va faire que les enseignants au Québec vont se sentir confortables à utiliser l'intelligence artificielle?
La crainte est toujours présente. Dire, on voit qu'il y a des corps d'emploi qui disparaissent à cause de l'arrivée des technologies, puis de l'IA et tout. Puis il y a des enseignants qui s'interrogent quand on voit apparaître certains bots très précis qui agissent comme tuteurs. Puis là, ils se disent, hé, misère, ça va-tu venir me remplacer un jour? Le travail d'un enseignant, c'est une praxis, ça, c'est pas juste des recettes qu'on applique. Il y a toute une science aussi derrière. Il y a un art, il y a une intuition. Ce qui fait en sorte que c'est pas du jour au lendemain que l'enseignant va être remplacé par l'intelligence artificielle. Puis là, il faut simplement bien les outiller, bien les aider à s'approprier l'intelligence artificielle et voir comment elle peut les aider, eux, et aider les élèves. Je donne souvent l'exemple de. Il y a un bot très particulier qui s'appelle RIFF, RIFF, qui est utilisé aux États-Unis et qui sert à aider à la réflexion. Donc, on écrit notre premier constat, puis il nous pose des questions par rapport à ce constat-là pour aider à notre réflexion, pour faire de la métacognition. C'est pas tout de. Il va me remplacer puis il va faire la job pour moi.
Et votre réponse me surprend. Au début, vous dites, il va pas le remplacer tout de suite ou aujourd'hui. Parce que vous pensez, vous, qu'à moyen terme ou à long terme, l'enseignant pourrait être remplacé par une intelligence artificielle?
Oh, terrain glissant, là. Hein? Ben, en fait, si on se reporte dans une centaine d'années, dans le long terme, je crois qu'il y a beaucoup de corps d'emploi qui pourront être remplacés par l'intelligence artificielle. J'aime beaucoup la science-fiction, puis on voit dans les Star Trek de ce monde, on voit les Vulcains, par exemple, qui apprenaient en bulle avec une IA, Si on se reporte très loin dans le temps, ça sera possible à terme. Mais là, dans notre court terme et moyen terme, c'est hors de question. Il faut rassurer notre monde quand même.
Ben oui, merci. De toute façon, là, aujourd'hui, quand on parle de l'IA puis de tous ces outils qui sont disponibles, ça demeure quand même que l'enseignant demeure la première personne sur la ligne de service qui est en meilleure position pour aider le jeune à utiliser l'outil de l'intelligence artificielle, mais de façon critique.
Oui, c'est très important, cette dimension de jugement critique et utilisation éthique des technologies, d'amener la question du droit d'auteur, la question de est-ce que c'est mon œuvre ou pas? Est-ce que il y a plein de questions qui se posent jusqu'où je vais dans l'utilisation d'un outil par rapport à moi, ma réflexion.
Je reviens sur l'événement en tant que tel. Le colloque, c'est la 42e édition. Ça joue quel rôle, ça, dans le calendrier des pédagogues, des professeurs, des enseignants? Parce que depuis le temps, vous avez pris votre place. Hein. Les
Hugo.
gens attendent ce moment-là.
Tout à
Vous
fait.
diriez que cette rencontre-là, ça représente quoi, ça, pour un pédagogue, pour un professeur?
Et ça va dépendre, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enseignants au Québec, là. Mais les enseignants qui s'inscrivent au colloque de la COPS, la plupart du temps, c'est des champions des différentes écoles, là. C'est ceux qui sont en avant de la parade, ils veulent demeurer en avant de la parade. Alors, ils s'inscrivent. De façon religieuse au colloque de la COPS pour aller voir les différents exposants, qu'est-ce qu'ils ont, les innovations qu'ils ont à nous présenter et voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Parce que là, les 300 quelques animateurs qu'on a au colloque, ils viennent principalement de notre réseau. Donc, c'est des expériences qui ont eu lieu ici et là, des gens qui ont pris le temps de s'approprier telle technologie et qui viennent le partager avec les autres. C'est vraiment un écosystème en ébullition qu'on a, puis on a des fidèles, on a des fidèles qui viennent d'année après année, hein.
Vous avez dit mot magique, puis j'ai l'impression qu'on ne parle jamais assez de ce volet-là de votre rencontre annuelle, et c'est le volet exposant. J'ai l'impression que de plus en plus d'exposants, justement, sont présents pour venir parler et venir présenter les outils qui sont disponibles à ceux qui veulent vraiment les utiliser. Ça, par exemple, cette année, qu'est-ce que les gens pourront voir?
Le nombre de partenaires exposants qu'on a effectivement augmenté. On pourrait dire que la grappe des EdTech québécoises, elle a vraiment augmenté. Elle est beaucoup plus grande qu'elle l'était à l'époque. Et on a des produits nichés assez intéressants qui sont québécois et qui commencent à percer au travers du monde, là. On passe par exemple, à Classcraft ou d'autres produits très, très nichés traite des élèves ayant des besoins particuliers. On a la robotique qui est toujours omniprésente. Les GAFAM de ce monde sont pas très présents. Il y a Google puis Apple qui viennent régulièrement. Microsoft puis le reste, ils boudent, ils viennent pas nous voir. Ils se disent sans doute qu'ils ont atteint la part de marché qu'ils voulaient au Québec.
Et pourtant, c'est intéressant, vous mentionnez Apple et Google. Apple a toujours été présent dans le monde de l'éducation, en tout cas depuis longtemps, et Google a rapidement compris, une fois qu'ils sont installés au Québec, ils ont été très actifs aussi dans ce domaine-là.
Effectivement, effectivement. Apple, c'est un indéfectible de notre colloque. Ils sont toujours présents et ils ont toujours eu à cœur l'éducation. Apple, ce qui fait en sorte que même s'ils ne percent pas autant qu'ils devraient, parce que c'est un écosystème qui est relativement fermé, dans les centres de services scolaires du Québec, il y a eu des décisions hors de contrôle de certains qui font en sorte qu'ils se sont tournés vers d'autres technologies que Apple.
Monsieur Lavoie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition-ci qui commence mardi?
On pourrait dire bonne chance, mais en fait, je sais que ça va être un succès. On a une équipe à la COPS, on a l'équipe permanente est renouvelée depuis pas très longtemps. Ça fait à peine un an qu'ils sont en place, mais les filles sont tellement dynamiques, puis elles veulent vraiment beaucoup. On a vraiment un succès assuré qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on pourrait nous souhaiter? Beaucoup de plaisir, tiens, beaucoup de plaisir.
Oh, je pense que vous en aurez. Stéphane Lavoie, vous êtes président de la COPS et je rappelle donc à partir de mardi 26, 27, 28 mars au Centre des congrès de Québec, c'est le 42e colloque annuel. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
Au plaisir.